C'est la joie de Jésus qui nous accueille aujourd'hui dans l'Évangile. Dans la version parallèle de Saint Luc, l'évangéliste Luc dit que Jésus a exulté. Qu'est-ce que ça doit être de contempler Jésus qui exulte ? Jésus proclame la louange de son Père et cela le met donc dans l'exultation. Il faut dire sans attendre ce qui le met précisément dans une telle liesse. C'est de pouvoir enfin se tenir à côté de chacun de nous. De pouvoir nous être liés définitivement. Aujourd'hui, Jésus nous déclare en s'adressant à son Père l'immense bonheur de son cœur de pouvoir enfin nous rejoindre et vivre avec nous. Jésus veut aujourd'hui que nous sachions l'immense joie qu'il habite d'être notre Emmanuel, Emmanuel, ce Dieu avec nous. Et ce qui le met en liesse, c'est justement cette avec nous. Au fond, à cet instant, c'est un peu comme si, à la brise du jour, Jésus se promenait dans le jardin d'Éden et qu'à son appel, Adam, redevenu enfin petit enfant, répondit « Me voici, je n'ai plus peur de toi. » Comment cela peut-il se faire ? En devenant disciple de Jésus. Mais pourquoi le deviendrait-on ? Parce qu'il est doux de cœur. C'est l'humilité du cœur de Jésus qui permet d'apprendre, c'est-à-dire de devenir disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend. Et quelle forme prend cette humilité ? L'union de Jésus. Et pas seulement l'union à Jésus. La merveille, ça n'est pas que nous puissions nous approcher de Dieu. Bon, personnellement, je n'aime pas cette formule. Elle est tout à fait catholique, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est juste l'inverse. C'est Dieu qui s'approche de nous. Il le dit ainsi, « Mon joug est facile à porter. » Le joug de Jésus, c'est de vivre du Père, de vivre en présence du Père. Tellement important un père. Dans une société où le père est très absent. Et cela se peut si l'on passe le joug du Christ. Alors il n'est pas superficiel de rappeler qu'un joug de bœuf, parce que d'habitude ce sont les bœufs qui portent un joug, est une pièce de bois composée de deux colliers et pas d'un collier. Car un bœuf ne porte pas seul son joug, mais toujours avec un autre animal, un bœuf, un âne, que sais-je. Si donc nous passons le joug du Christ, l'autre joug ne reste pas vide. C'est Jésus lui-même qui le met et qui tire avec nous le fardeau. Il se trouve qu'en syriaque, le mot « joug », que je n'ai pas noté, veut aussi dire « époux ». Alors on pourrait rire en disant « mais bon, joug, époux ». Non, époux, ça veut dire qu'il y a une épouse, ça veut dire que c'est deux. Vous voyez ? Le mot « joug » veut tellement dire « deux », unis en deux, que ça a donné le mot « époux ». En arabe, il y a une forme particulière qu'on appelle le duel. Le duel, c'est un singulier double. C'est comme les yeux, on en a deux, mais on... voilà. C'est un singulier, mais ça va toujours par deux. Bon, excusez la digression. C'est Jésus lui-même qui met ce joug et qui tire avec nous le fardeau. Avec la force du Christ, tout fardeau devient léger. Celui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, on met des années à le comprendre, hein ? Oui, mais on... non, rien. Oui, mais quand même, rien. Eh bien, celui qui a dit ça prend part à ce qui doit être fait. Il porte le même joug que nous, avec nous, pour nous, c'est sa joie. Et sa présence finit par nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes. Dans une phrase très belle, Placide de Seille dit ce que je viens de balbutier en parlant du prochain, mais ce prochain auquel je pense ici, c'est Jésus. Je vous lis cette phrase. Celui qui est animé d'un humble amour du prochain, c'est bien le cas de Jésus, hein, a connu le don de révéler, a comme le don de révéler aux autres ce qu'ils portent de meilleur en eux-mêmes et de les acheminer vers la découverte de leur véritable identité. C'est merveilleux. Ça parle dans une vie communautaire. Enfin, moi, ça me parle, en tout cas. Alors, pour donner à réfléchir sur la puissance de cette union de Jésus et à Jésus, et aussi sur la puissance performative de la parole de Dieu, ça veut dire que quand on entend la parole, il se passe quelque chose. On ne peut pas entendre la parole de Dieu de façon anodine. Eh bien, je désire vous rapporter une petite histoire vraie. Voici donc le courrier d'un prisonnier, emprisonné à vie, et qui écrit à sa maman. Je précise que le jeune homme n'a jamais entendu parler de Jésus et n'a jamais été baptisé. Voilà ce qu'il écrit à sa maman. Ma chère, ma bien chère maman, je n'ai jamais été un bon fils. J'ai attiré la honte sur toi et sur notre famille. J'espère que tu me pardonnes. Je suis sur le point de mourir. Tu m'as donné une bonne éducation et tu m'as nourri et tu m'as aimé. Et en récompense, qu'ai-je fait ? J'ai écrit sur les murs des mots hostiles au gouvernement, ce qui m'a valu d'être condamné à la prison à perpétuité. La prison à vie, alors que je n'avais que 18 ans. Tu m'avais élevé pour un meilleur destin. Pardonne-moi, je t'en prie. Maintenant, j'ai 31 ans. je n'atteindrai pas l'âge de 33 ans, car j'ai un cancer des intestins et les gardiens ne voudront pas payer l'opération. Au lieu d'être au fond de la mine, je surveille des caisses et ces outils rouillés dans une petite remise. Je vomis tout le temps. Je ne vois jamais personne, mais au moins je peux contempler le désert et le sable soufflé par le vent. Pendant 8 ans, je n'ai pas vu la lumière du jour. Du baraquement, je devais entrer directement par un tunnel dans la mine pour y travailler. Une chambre, un corridor, une fosse, le monde se limitait pour moi à cet espace. Maintenant, le monde s'est élargi, mais il va s'achever. Ma situation est sans espoir. J'ai réfléchi longtemps et pleuré amèrement sur les choses que je n'ai jamais faites et que je ne ferai jamais. Je n'ai jamais embrassé une femme. Je n'ai jamais rien eu en propre, même pas une brosse à dents. Je n'ai jamais gagné d'argent, ni mangé un bon repas, ni fabriqué un cerf-volant pour un enfant émerveillé. Plus important encore, je ne t'ai jamais dit combien je me sentais redevable envers toi et combien je regrettais de t'avoir causé un tel chagrin. Je suis arrivé à une double conclusion. Les phrases qui suivent sont assez bouleversantes. La première est que ce monde n'est pas le seul monde. Je n'arrive pas à croire que je sois venu au monde par le miracle de la naissance pour mener une telle vie puis disparaître définitivement. Je crois qu'il existe un autre monde où il y a une table à laquelle je pourrais m'asseoir, boire les meilleurs vins, manger à satiété, me lier d'amitié avec qui me plaît, parler sans crainte et ne pas avoir une sirène qui hurle à chaque demi-heure. Je crois également qu'il y a quelqu'un qui est assis à la tête de cette table. Un jeune prisonnier m'a parlé de quelqu'un qui a dit « Mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Je ne sais pas ce que cela signifie, mais tout ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai senti un soulagement et la conviction que ma mort n'était pas définitive et que ma vie n'avait pas été vaine. Maman, avant de mourir, laisse-moi t'adresser une demande. Découvre qui a dit ces mots. Pour que je puisse m'asseoir à sa table avec lui dans l'autre monde. »